Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, le riche était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi.
Alors en ce dimanche, nous continuons notre lecture du chapitre 16 de l'Évangile selon saint Luc, chapitre, souvenez-vous, consacré au bon usage des richesses et de l'argent. La version liturgique saute un passage entre l'Évangile entendu dimanche dernier et la parabole du riche et de Lazare que nous venons d'entendre. Je vous cite ce passage. Les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, entendaient tout cela, et ils ricanaient au sujet de Jésus. Ce dernier leur dit alors, « Vous êtes, vous, des gens qui se présentent comme des justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est prestigieux chez les hommes est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Fin de citation. C'est-à-dire que l'argent lui-même, ou plutôt l'utilisation qu'on en fait, et bien souvent cette utilisation peut se réduire au pouvoir. Pouvoir d'achat, c'est vrai, mais au pouvoir aussi exercé sur les uns et les autres, est une abomination aux yeux de Dieu. L'enseignement délivré par la parabole du riche et de Lazare aujourd'hui est très clair et ne demande pas beaucoup d'explications pour être comprise. Je partirai donc de cette parabole pour vous proposer trois points de réflexion, qui ne sont pas exhaustifs, bien sûr, mais trois points de réflexion. Alors, le premier point sera bref. Face à la mort, destinée commune de tous les hommes, nous sommes absolument égaux. Alors oui, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui nous dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». C'est vrai, mais cette égalité est une égalité théorique, une égalité de droit. Dans la pratique, nous savons qu'il n'en est pas exactement pareil. Il s'agit bien, je le disais, d'une égalité en droit devant la loi et non pas d'une égalité de fait. Dans la perspective de Dieu, Créateur et Père, oui, nous sommes tous égaux dès le moment où nous venons au monde, parce que nous appartenons tous à l'unique espèce humaine. Mais du point de vue concret, il est évident que nous ne naissons pas tous avec les mêmes chances de développement personnel. On peut naître dans une famille pauvre ou aisée, à Montréal ou à Lagos, dans un quartier défavorisé ou au contraire dans un quartier chic. Bref, nous pouvons être favorisés ou défavorisés. Seule la mort vient alors rétablir l'égalité fondamentale entre les hommes. Et seul le jugement de Dieu vient rétablir la justice véritable dans un monde dominé par les inégalités. C'est ce que le riche apprend à ses dépens dans cet au-delà auquel il ne devait pas beaucoup croire de son vivant. Il y a pour lui un renversement de situation. Lazare a connu le malheur, il connaît maintenant le bonheur. Le riche avait connu le bonheur, il connaît maintenant le malheur. Mais l'un et l'autre ne sont que le revers de la médaille, le revers de ce que nous aurons vécu ici-bas. Et donc, pour le riche, il est maintenant trop tard pour lui. Impossible de changer de conduite. Un grand abîme, lui répond Abraham, a été mis entre vous et nous. Il s'agit de l'abîme de la mort, de cette seconde mort qu'appelle Saint Jean dans l'Apocalypse, de cette mort spirituelle. Il ne faut donc pas remettre à demain l'urgence de notre conversion, car demain sera peut-être le jour de notre départ définitif. Malheureusement, pour beaucoup de jeunes, jeunes adolescents, jeunes parents, etc., on ne pense pas assez à la mort. On pense que celle-ci est réservée à la vieillesse, ou, cas extrême, effectivement, à des cancers au dernier degré. Et pourtant, il ne faut pas attendre un certain âge canonique pour envisager l'au-delà, pour envisager ce que sera notre situation dans cette autre vie à laquelle nous appelle Jésus. C'est dès aujourd'hui qu'il faut travailler à notre conversion. Un deuxième point de réflexion m'amène à présent, à la lumière de cette première considération, à examiner le bonheur de ceux qui sont riches. Compte tenu de l'enseignement exprimé par la parabole de Jésus, le vrai bonheur du riche n'aurait pas dû consister à vivre dans le luxe et l'indifférence vis-à-vis de son prochain Lazare. Au contraire, son vrai bonheur résidait dans le fait que le riche avait entre ses mains un immense et merveilleux pouvoir, celui de faire le bien autour de lui. En effet, l'argent ne donne pas simplement le pouvoir d'achat, il donne aussi le pouvoir de faire le bien. De faire le bien par le partage de ses richesses, à condition bien sûr d'avoir un cœur généreux. Et il pouvait alors soulager bien des misères. Utiliser de cette manière son capital, c'est le faire vraiment fructifier, comme dit Jésus. Devenir riche en vue du royaume des cieux et recevoir alors la bénédiction du Seigneur avec sa joie. Or, nous dit-on, Lazare était couché devant le portail du riche. Le riche ne pouvait donc ne pas le voir en sortant de chez lui. Il était couché en travers de son portail, imaginez la scène. Il devait même enjamber le corps de ce pauvre malheureux pour sortir de chez lui. Constater même que les chiens avaient plus d'humanité que lui, puisqu'ils venaient lécher les plaies de Lazare pour le soulager. La salive des canins étant, c'est bien connu, un antiseptique naturel. Bref, le riche a fait celui qui ne voyait pas. Et là est sa culpabilité. Sans doute faisons-nous un peu comme lui d'ailleurs, vis-à-vis de tous les malheureux que nous pouvons nous aussi croiser dans notre vie. Quand je parle des malheureux, je ne parle pas nécessairement des réfugiés ou etc., enfin des gens qui sont à des kilomètres. Je parle de ceux que nous pouvons croiser dans nos rues. La pauvreté nous fait peur, car elle nous guette tous. Et on préfère alors ne pas la voir, ne pas se confronter à elle, malgré la sonnette d'alarme de nos consciences, qui nous enseigne un impératif, fais quelque chose. Nous prenons pour excuse le fait que nous ne pouvons pas venir en aide à tous les pauvres, alors on n'en aide aucun. C'est ainsi qu'il nous faut comprendre la réplique d'Abraham, peut-être pour certains un peu mystérieuse. Quelqu'un aurait beau ressusciter d'entre les morts, si tes frères n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne l'écouteront pas davantage. Qu'est-ce que la parole d'un ressuscité, de quelqu'un qui revient d'entre les morts, sinon la voix même de l'Évangile? Pour nous, la parole d'un homme ressuscité d'entre les morts, il n'y en a qu'une, celle de l'Évangile. Et qu'est-ce que la parole de Moïse et des prophètes, sinon la voix de notre conscience morale, Moïse et les prophètes, symbolisant la loi naturelle? La réponse d'Abraham nous livre ainsi toute sa plénitude. Si quelqu'un ne veut pas écouter la voix de sa conscience, qui nous demande par exemple de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, comment cette même personne pourrait-elle alors écouter la voix de l'Évangile qui nous demande par exemple d'aimer nos ennemis? Si nous ne sommes pas capables de faire le bien naturel, comment alors ferions-nous le bien surnaturel? N'attends donc pas des interventions extraordinaires de la Providence, comme des miracles, pour lutter contre l'injustice et la pauvreté qui nous entourent. Commençons d'abord par écouter la voix de notre conscience morale et agissons. Et encore une fois, celui qui n'écoute pas sa conscience en première instance ne pourra jamais écouter l'Évangile. C'est du leurre, c'est du pipeau. Un troisième point de réflexion tourne autour de la nourriture. Lazare, nous dit-on, aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Expression pour vous faire comprendre qu'il y avait sans doute bien du gaspillage. Ainsi, Lazare n'aurait pas pris sur le nécessaire du riche, il aurait pris sur son superflu, et c'est le cas aujourd'hui encore pour beaucoup de gens. Dans la prière de l'offertoire, le prêtre, vous le savez, dit ceci. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Tout y est dit sur l'origine de notre nourriture, et donc sur ce qui nous permet de nous maintenir en vie et en bonne santé. Nous savons que toute nourriture vient de l'action conjuguée des hommes à travers leur travail et de l'action conjuguée de Dieu créateur qui, étant l'auteur de la création, nous donne tous ses biens. Mais notre système alimentaire mondial est en crise. Ce que l'on a appelé la révolution verte, avec l'usage toujours plus grand de la chimie, des pesticides et des OGM, à rechercher la productivité et la rentabilité. Elle échoue pourtant à nourrir la population mondiale. Non seulement elle a pollué les sols et les eaux, mais elle a créé du chômage, de la misère et du désespoir. En 1945, il y avait 10 millions de paysans en France. Il en reste aujourd'hui moins d'un million. Un paysan français se suicide, entendez bien, un paysan français se suicide chaque jour dans l'indifférence la plus totale. Or, un pays qui ne respecte plus ses agriculteurs est un pays en grand danger. La révolution verte a transformé l'alliance de la terre et du travail des hommes en un ensemble de techniques mises au service de profits colossaux dans l'industrie agroalimentaire et les supermarchés. On ne parle plus de paysans, du reste, on parle d'exploitants agricoles. Malgré les résultats négatifs pour l'environnement et la santé de cette agriculture et de cet élevage intensif, on s'obstine dans cette orientation. Dans la Somme, il y a en ce moment une ferme-usine de 1000 vaches. Vous vous rendez compte? Autant dire qu'elle ne voit jamais le jour. Notre système alimentaire repose malheureusement en grande partie sur le gaspillage. 50 000 fruits et légumes vont à la poubelle chaque jour. Et sur la malbouffe, avec 15% de Français atteints d'obésité. Alors pourquoi donc ce système fou, néfaste et immoral n'est-il pas remplacé par un autre? Eh bien, tout simplement parce que nous avons perdu notre relation à Dieu créateur. Nous avons perdu de vue que les denrées nous viennent tout d'abord, certes, du travail des hommes, mais d'abord et avant tout, du don de Dieu créateur. C'est ce qui arrive quand on évacue Dieu de la société. En perdant ce sens de Dieu, nous avons aussi perdu le respect de la vie sous toutes ses formes, y compris la vie animale, et le respect pour notre terre nourricière. Et nous payons déjà très cher ce manque de sagesse et d'humilité. Et donc, s'il y a autant de gaspillage, s'il y a autant encore de gens qui meurent, c'est parce qu'il y a vraiment une mauvaise répartition des richesses. À commencer par la nourriture. Le pauvre aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Alors finalement, ces considérations nous ramènent à l'évangile de dimanche dernier, souvenez-vous. Nous ne pouvons pas, nous disait Jésus, nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent. Aujourd'hui, le respect de la création est incompatible avec la course effrénée au profit. Et cet appât du gain est incompatible avec le partage équitable des ressources de notre terre. Saint Jean de la Croix, pour conclure, avait cette phrase, cette sentence admirable: au soir de ta vie, tu seras jugé sur l'amour. Mais pour vérifier notre coefficient d'amour, nous devons regarder quel est notre rapport vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis des biens de la création. Que faisons-nous de l'un et de l'autre? Amen.